Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 186 de la sainte sourate Al-Baqarah. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel de Dieu.
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك عبادي أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العلي العظيم.
Et quand mes esclaves t'interrogeront sur moi, alors que je suis tout proche, je réponds à l'appel de qui fait appel quand il m'appelle. Qu'il cherche donc à répondre à mon appel et qu'il croit en moi, peut-être serait-il le bien dirigé.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour. Ravi de vous retrouver en ce lundi 1er avril 2024. Nous allons vous présenter le journal suivi d'un commentaire politique consacré aujourd'hui aux célébrations en Iran du 45e anniversaire de l'établissement de la République islamique. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Sommaire de ce journal, la conversation téléphonique entre les présidents turcs et iraniens. Les États musulmans doivent rompre tous leurs liens avec Israël, insiste Seyed Ebrahim Raisi. L'armée israélienne se retire de l'hôpital Al-Shifa après l'avoir incendié. Et puis la France exhorte la Chine à éclaircir sa position sur l'Ukraine. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président iranien Ebrahim Raisi a déclaré que les pays musulmans devraient rompre toutes leurs relations politiques et économiques avec Israël pour le forcer à mettre fin à ses crimes contre le peuple palestinien. Lors d'une conversation téléphonique avec le président turc Recep Tayyip Erdogan dimanche, le président Raisi a rappelé que l'administration américaine continuait de fournir à Israël un vaste soutien financier et militaire sans réserve. L'un des moyens les plus efficaces pour forcer les sionistes à mettre un terme aux crimes à Gaza est de rompre toute relation politique et économique avec ce régime, a-t-il dit. Les habitants de la bande de Gaza, assiégés, souffrent terriblement des crimes israéliens. Malgré l'adoption récente d'une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies exigeant un cessez-le-feu immédiat, Israël n'est attaché à aucune résolution, loi ou traité international, et sa violation de plus de 400 déclarations et résolutions internationales expose clairement sa nature agressive et inhumaine, a-t-il dit. Le président iranien a appelé les chefs d'État musulmans à prendre des mesures décisives pour mettre fin au génocide à Gaza. Il a souligné l'importance de renforcer la synergie entre les États membres de l'Organisation de la coopération islamique OCI et d'autres organismes régionaux et internationaux pour envoyer de l'aide humanitaire à la population de Gaza. Israël a lancé une brutale campagne de mort et de destruction dans la bande de Gaza soutenue par les États-Unis le 7 octobre, après que le mouvement de résistance palestinien Hamas a mené une opération historique contre l'entité usurpatrice en représailles à ses atrocités accrues contre le peuple palestinien. L'armée israélienne se retire de l'hôpital Al-Shifa après l'avoir incendié. L'armée d'occupation israélienne s'est retirée du complexe médical d'Al-Shifa après l'avoir incendié et mise entièrement hors service. Les forces d'occupation israéliennes se sont retirées des environs du complexe médical d'Al-Shifa vers le sud-ouest de la ville de Gaza, a rapporté le correspondant d'Al-Mayadin à Gaza. De nombreux corps de martyrs ont été retrouvés à proximité de l'hôpital après leur retrait. Des dizaines de corps, dont certains décomposés, ont été retrouvés à l'intérieur et aux abords de l'hôpital Al-Shifa, a indiqué le ministère de la Santé de Gaza dans un communiqué. L'armée d'occupation israélienne s'est retirée du complexe hospitalier Al-Shifa après l'avoir incendié et mis complètement hors service, a-t-il indiqué, cité par Al-Mayadin. L'ampleur des dégâts à l'intérieur du complexe et des immeubles qui l'entourent est considérable, ajoute-t-il. Le correspondant de l'agence d'information libanaise a noté que les comités d'urgence ont mis en garde les civils contre une inspection hâtive de la situation à l'hôpital Al-Shifa, craignant la présence de tireurs d'élite israéliens et d'embuscades à proximité. Un médecin a déclaré à l'AFP que plus de 20 cadavres ont été récupérés. D'après lui, certains corps se sont fait écraser par les véhicules militaires. Ce retrait intervient après que les factions de la résistance palestinienne ont intensifié leurs opérations contre les forces d'occupation israéliennes à proximité du complexe médical d'Al-Shifa. Une analyse de l'Institut pour l'étude de la guerre mentionne que les factions de la résistance palestinienne ont lancé 70 opérations contre l'armée israélienne à Al-Shifa entre le 18 mars, date à laquelle celle-ci a pris d'assaut le complexe et lui a imposé un siège étouffant, et le 28 mars. Sachez d'autre part que la sœur du chef du Hamas, Ismaïl Haniyeh, a été kidnappée lors d'un raid de police dans le sud. Les forces israéliennes ont kidnappé ce lundi 1er avril la sœur du leader du Hamas, Ismaïl Haniyeh, lors d'un raid dans le sud d'Israël. Le service général de sécurité, Shin Bet, et la police d'occupation israélienne ont confirmé l'arrestation de Sabah Abdel Salam Haniyeh, la sœur du chef du bureau politique du mouvement de résistance islamique de la Palestine, Hamas, Ismaïl Haniyeh, à son domicile situé dans le village de Tel al-Sabah, dans le Negev, au sud de la Palestine occupée. La police et le Shin Bet ont prétendu dans un communiqué qu'elle était en contact avec des combattants du Hamas et qu'elle incitait le peuple à procéder à l'opération terroriste contre le régime sioniste. Son arrestation a eu lieu dans le cadre d'une opération baptisée Early Sournis. L'actualité, c'est également les manifestations anti-Netanyahou, ou la plus grande manifestation anti-Netanyahou devant son domicile à Rots depuis le 7 octobre 2023, a dégénéré en violence face à la police israélienne dimanche soir. La police israélienne a tenté de disperser les contestataires, dont le nombre était estimé à environ 100 000 rassemblés devant le domicile du Premier ministre Benjamin Netanyahou. Des milliers d'Israéliens se sont également rassemblés en masse dimanche devant le bâtiment de la Knesset à Rots, réclamant le renvoi de Netanyahou et la tenue des élections anticipées. Pour les disperser, la police a fait usage de canons à eau pour dégager une route bloquée par des manifestants en colère. Sachez également que 3 Israéliens ont été grièvement blessés lors d'une opération au couteau à Ashdod. En l'espace de 2 jours, une deuxième opération au couteau menée par un jeune Palestinien dimanche soir à Ashdod fait 3 blessés parmi les Israéliens. Les médias israéliens ont indiqué que le Palestinien qui avait mené l'opération, apparemment originaire d'Al-Khalil, a été tué peu de temps après. À la suite de l'incident, des forces israéliennes appuyées par des véhicules militaires ont envahi la ville de Deir ez-Zamit, au sud de la ville d'Al-Khalil, en Cisjordanie occupée, et fait une incursion dans le domicile de l'attaquant en question, nommé Mohamed al-Maslameh. Une personne a été blessée. Enfin, en visite en Chine, le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, a déclaré lundi 1er avril que la France espérait que la Chine enverrait des messages clairs à la Russie sur la guerre en Ukraine. Il s'agit de la deuxième visite en Chine d'un ministre français des Affaires étrangères en moins de 6 mois, après celle de Catherine Colonna en novembre. Après une réunion à Pékin avec son homologue chinois Wang Yi, M. Séjourné a déclaré lors d'une conférence de presse conjointe « Nous avons une conviction, c'est qu'il n'y aura pas de paix durable si elle n'est pas négociée avec les Ukrainiens. Il n'y aura pas de sécurité pour les Européens s'il n'y a pas de paix conforme au droit international. » La Chine, qui se présente comme une partie neutre, mais dont la relation avec la Russie s'est approfondie depuis le début du conflit, appelle à un règlement politique pour mettre fin au combat en Ukraine. Fin de ce journal. Merci infiniment de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. L'Iran célèbre le 45e anniversaire de l'établissement de la République islamique. Le ministère iranien des Affaires étrangères a renouvelé dans un communiqué son allégeance à la protection des intérêts nationaux de l'Iran sur la scène internationale alors que le pays célèbre le 45e anniversaire de l'établissement de la République islamique. Le ministère des Affaires étrangères a publié le dimanche 31 mars un communiqué en l'honneur de la journée de la République islamique qui marque la tenue d'un référendum historique en 1979 au cours duquel les Iraniens ont voté massivement en faveur de la destitution du régime Pahlavi soutenu par les États-Unis quelques semaines après son effondrement. Compte tenu des exigences du leader de la révolution islamique, l'Ayatollah Ali Khamenei, et de l'approche de la politique étrangère du 13e gouvernement, nous nous engageons envers le peuple clairvoyant de l'Iran à travailler dur pour préserver les intérêts nationaux sur la scène internationale et développer les relations avec divers pays du monde, indique le communiqué. La diplomatie iranienne a salué le référendum de deux jours des 30 et 31 mars 1979 comme une épopée unique dans l'histoire de l'Iran et a décrit la République islamique comme un modèle de démocratie fondée sur la religion. Le texte a également salué le courage et les dévouements du peuple iranien dans sa lutte de plusieurs années contre le tristement célèbre régime Pahlavi. Plus de 98,2% des Iraniens éligibles ont voté « oui » pour l'établissement d'une république islamique dans tout le pays lors du référendum historique tenu en 1979. Le vote, qui a eu lieu moins de deux mois après la victoire de la révolution islamique, est considéré comme un tournant dans l'histoire contemporaine de l'Iran. La République islamique a été établie en Iran conformément au slogan populaire de la Révolution islamique de 1979 qui appelait à l'indépendance, la liberté et la République islamique pour le pays. Depuis lors, la nation célèbre chaque année le 12 Farvardin du calendrier iranien, soit le 31 mars, comme journée de la République islamique. La révolution islamique, dirigée par le défunt Imam Khomeini, a culminé avec le renversement de Mohammad Reza Pahlavi et a mis fin à 2500 ans de régime monarchique en Iran.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de choisir l'émission Le Débat diffusée depuis la capitale iranienne Téhéran. Je vous demande de bien vouloir rester avec nous. Alors, notre sujet n'est pas nouveau. Il s'agit bien sûr de crimes horribles commis par le régime israélien contre les Palestiniens, mais également contre le sud du Liban. Le Hezbollah attaque bien sûr les colonies israéliennes en réaction aux frappes d'Israël dans le sud du Liban. Alors, des frappes qui avaient tué 9 ambulanciers, alors que les combattants du Hezbollah prennent pour cible des troupes israéliennes et non pas des civils. Alors, depuis le 7 octobre, début des hostilités dans la bande de Gaza, plus de 32 500 Palestiniens ont trouvé la mort dans la bande de Gaza. Mais également, Israël mène des attaques contre le sud du Liban de manière intermittente. Alors, nous allons développer ces questions à l'aide des experts des questions internationales qui vont nous joindre tout à l'heure, juste après ce reportage. Restez avec nous, je vous prie.
Le Hezbollah cible les colonies israéliennes en réponse aux frappes d'Israël contre le sud du Liban. Les combattants du mouvement de résistance libanais Hezbollah ont mené de multiples frappes contre des colonies de peuplement et des positions israéliennes dans le secteur nord des territoires occupés par Israël en 1948. Le Hezbollah a déclaré dans un communiqué avoir ciblé les colonies de Echlemi et Goren jeudi en réponse aux attaques contre des civils et en particulier aux frappes israéliennes sur les villes de Nakura et Tair Harfa qui ont tué au moins 9 ambulanciers affiliés au Hezbollah et au mouvement Hamal. Plus tard, jeudi, les combattants de la résistance libanaise ont frappé un centre de commandement nouvellement créé dans le Moshav de Liman, situé dans la région de Galilée occidentale. De plus, le Hezbollah a diffusé une séquence vidéo montrant ses combattants ciblant un rassemblement de troupes israéliennes à Hor Sharamim, près de la frontière sud du Liban, avec les territoires occupés de la Palestine. La résistance libanaise a également tiré une salve de roquettes sur la ville de Kiryat Shmona. Aucun rapport n'a été filtré sur l'étendue des dégâts. Le régime israélien attaque le sud du Liban de manière intermittente depuis le 7 octobre, date à laquelle il a lancé une campagne dévastatrice de mort et de destruction à Gaza, tuant au moins 32 552 Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants. En représailles, le Hezbollah lance des attaques à la roquette quasi quotidiennes contre les positions israéliennes. Au moins 322 personnes ont été tuées à la frontière libanaise, dont 56 civils. Israël a confirmé qu'au moins 10 de ses soldats et 7 colons ont été tués dans la région. Les combats du Hezbollah ont forcé l'évacuation de dizaines de milliers de personnes de la partie nord des territoires occupés. Le mouvement a déjà mené 2 guerres contre Israël en 2000 et 2006, l'obligeant à battre en retraite.
Et bien voilà pour le reportage. À présent, j'ai le grand plaisir d'accueillir sur le plateau du débat M. Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède. Bonjour M. Rami.
Bonjour.
Un plaisir de vous recevoir dans cette émission. Un grand bonjour à Bernard Cornu, analyste politique. Et bonjour, M. Cornu.
Bonjour à toutes et à tous. Et aujourd'hui, j'ai mis mon costume, ma veste de polytechnicien pour montrer le sérieux de mon engagement contre la politique française et la politique des États-Unis face à l'injustice qui règne en Palestine depuis des décennies.
Bernard Cornu, votre sérieux n'est caché pour personne. Vous participez à toutes les manifestations et vous êtes un vrai combattant contre les crimes commis par Israël. Donc, dans la bande de Gaza, il est caché bien sûr pour personne. Ma première question va s'adresser à vous justement. À présent, c'est le tour du sud du Liban. Donc, le Hezbollah libanais essaye de réagir et frappe des positions des troupes israéliennes, alors que les Israéliens avaient attaqué donc le sud du Liban en tuant 9 ambulancier, un vrai crime de guerre, n'est-ce pas, M. Cornu ?
Tout à fait, c'est un crime de guerre contre des civils, contre des personnels du personnel de santé qui exerce au Liban du Sud. On le voit par les photos de cette ambulance fracassée. Mais le Hezbollah exerce, comme l'a dit d'ailleurs son chef, une certaine retenue parce qu'il a l'expérience malheureuse de 2006 où en quelques semaines l'État israélien a détruit de très nombreuses infrastructures, des ponts, états d'ouvrage d'infrastructures au Liban. Donc, et le chef du Hezbollah, Saïd Nasrallah, avait lui-même dit qu'il ne s'attendait pas à une riposte aussi violente de la part des Israéliens. Et ceci, j'ai vécu cette situation d'ailleurs quand j'étais à Ankara, le jour de la fête nationale française. Et j'étais même alors scandalisé que l'ambassade de France ait invité l'ambassadeur israélien en Turquie ce jour-là.
Oui, merci pour cette introduction. À présent, j'aimerais connaître celle de M. Ahmad Rami qui est avec nous depuis la Suède. M. Rami, quelle est votre réaction à la réaction du Hezbollah libanais contre les frappes d'Israël au sud du Liban, je vous prie.
Aujourd'hui, en réalité, le Hezbollah est l'une des organisations de la résistance les plus efficaces et les plus organisées et qui ne se laisse pas faire et qui, en réalité, peut porter des coups à à l'arrogance de l'antisioniste. Et en réalité, le Hezbollah ne fait que exercer son droit et son devoir de réagir contre l'injustice qui est perpétrée par l'occupant sioniste en Palestine. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aura de paix dans l'avenir, dans le monde, qu'une paix basée sur la justice. Il n'y aura jamais de paix dans le monde entier si un pays ou un principe est agressé, un principe de justice. Donc, le Hezbollah représente en réalité, ses actions représentent la justice et le droit international. Et il n'est pas seul dans ce domaine, il y a aussi la République islamique d'Iran, le Yémen, la Syrie et l'Irak. Je crois que ce front de résistance donne une leçon, donne aussi une voie à suivre pour toute l'humanité, pour toutes les organisations internationales, car en réalité, il n'y aura pas, comme j'ai dit, de justice valable, de justice permanente, que si cette justice, que c'est que c'est les solutions et les actions et l'organisation dans le monde est fondée sur la justice.
Merci, Monsieur Ahmad Rami. Revenons, je vous prie, sur le costume de M. Bernard Cornu. Il s'agit donc d'un geste symbolique. Il porte le costume de Polytechnique. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, M. Bernard Cornu? Comment nous faire partager votre colère à l'égard de la politique de la France vis-à-vis des crimes commis par Israël dans la bande de Gaza, je vous prie?
Disons, la France, il est connu que depuis très longtemps, elle a participé à l'armement israélien. Ce n'est pas le plus grand fournisseur d'armes, puisque à peu près deux tiers des armes sont fournies par les Américains, spécialement en cette période, et presque un petit tiers ou un quart par la République fédérale allemande, qui est toujours pressurisée par l'État israélien à cause du comportement dans la période nazie face aux Juifs, donc ce qu'on appelle la Shoah, le massacre des Juifs d'Europe. Et la France quand même participe. On a révélé récemment que la France a vendu des équipements pour les mitrailleuses israéliennes, compatibles avec les mitrailleuses israéliennes qui servent effectivement à l'armée israélienne à Gaza et en Cisjordanie. Ceci est scandaleux et ceci met la France dans une position de complicité dans ce génocide qui est dénoncé par les Nations Unies, récemment par Madame Francesca Albanese, responsable du Haut Commissariat aux réfugiés au Moyen-Orient pour les droits de l'homme, et aussi récemment par la Cour de justice internationale qui, dès le 26 janvier, a dit qu'il y avait un risque de génocide, l'a répété il y a deux jours aussi dans une nouvelle ordonnance et qui a demandé, sans avoir de réponse réelle, qui a demandé à l'État israélien de prendre toutes les mesures conservatoires pour éviter ce génocide, c'est-à-dire arrêter d'assassiner les civils, arrêter de mettre des obstructions très diverses à l'ensemble des fournitures d'aide humanitaire, d'alimentation, de carburant et tout ça. Dans un document très précis, elle a précisé cela et pour l'instant, il n'y a pas de réaction ferme, agissante de la part des Nations Unies ou des pays européens qui sont impliqués par cette guerre. Sauf que, effectivement, dans quelques pays, face à cette menace de complicité, des organisations locales ont saisi la justice aux Pays-Bas, en Allemagne et au Canada. Et au Canada, c'était au Parlement, pour faire cesser ces livraisons d'armes. J'attends donc que la France se mette aussi à exercer de telles sanctions face à l'agression israélienne face à ce génocide en cours sous les yeux du monde entier.
Absolument. Ahmad Rami, est-ce que vous êtes d'accord avec les propos de M. Bernard Cornu quand il a dit fournir des armes à Israël, ce qui vaut donc d'être complice au génocide qui se déroule dans la bande de Gaza?
Absolument, je suis tout à fait d'accord avec lui. Et il faut savoir que ceux qui soutiennent Israël sont participent en réalité au génocide d'une façon indirecte. Et condamner cet appui à Israël, ce soutien à Israël, et fait partie aussi de prendre des positions justes envers la question palestinienne. Parce que, en fait, ce qui se passe aujourd'hui, tout est tout à fait clair, il s'agit d'une occupation. Hein. Il s'agit des étrangers qui ne sont pas de la Palestine, qui sont venus et qui occupent la Palestine, et qui veulent exterminer le peuple palestinien et occuper d'ailleurs toute la région, du Nil jusqu'à l'Euphrate. Et pas seulement toute la région, mais en réalité, politiquement occuper le monde entier. Dans tous les pays, le lobby israélien sioniste a le pouvoir, que ce soit en France, avec l'exemple du CRIF aux États-Unis, vous avez l'exemple de AIPAC. Donc, il n'y a pas en Israël, il n'y a pas un lobby américain ou un lobby français. Mais en France, aux États-Unis, il y a un lobby israélien. Donc, vous voyez le déséquilibre de la situation. Israël occupe les États-Unis politiquement, occupe la France politiquement, et la résistance du peuple français doit en réalité se réveiller et pour mettre fin à cette occupation politique de la France et des États-Unis, qu'on ne vous en met pas seulement comme exemple, parce que cette occupation, c'est valable aussi au Maroc, en Égypte, l'Allemagne est toujours occupée, hein, l'Allemagne fédérale, c'est un territoire occupé aussi, hein, politiquement et même militairement, l'armée sioniste américaine est toujours là. Et donc cette occupation sioniste et aussi s'exerce à l'échelon mondial.
Bernard Cornu, est-ce que vous allez jusqu'à la occupation des pays que M. Ahmad Rami a cités?
C'est une formulation symbolique qui évoque le rapport de force médiatique dans le monde, l'influence des milieux sionistes dans les médias pour contrôler l'opinion, pour diffuser l'opinion et par l'opinion publique imposer aux dirigeants de nos pays une certaine politique de soutien, en tout cas de non-obstruction à toutes les exactions de l'armée israélienne, du gouvernement israélien, telles qu'elles sont, on le voit, en Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est.
Oui, mais ce qui est encore plus grave, Bernard Cornu, c'est la politique de deux poids deux mesures que mènent les pays que M. Ahmad Rami a cités, tels que la France, les États-Unis surtout, l'Allemagne, etc. D'un côté, donc, ils fournissent des armes aux Israéliens pour tuer des innocents palestiniens, et de l'autre, ils défendent les droits de l'homme, soi-disant, donc, on encourage un cessez-le-feu immédiat et permanent. Monsieur Ahmad Rami, comment vous expliquez-vous, je vous prie, cette politique, et si ça s'explique bien sûr, cette politique de deux poids deux mesures que mènent ces pays-là?
Oui, parce que ces pays-là sont politiquement occupés par l'antétisioniste, donc ils suivent aussi la tactique de l'antétisioniste. L'antétisioniste n'appelle pas cette occupation de la Palestine comme une occupation, mais pour eux, c'est la résistance qui doit être écrasée, qui doit être exterminée, et non pas la justice, c'est-à-dire l'indépendance de la Palestine et la libération de la Palestine. Donc ces pays-là, ils suivent la tactique, l'hypocrisie de l'antisioniste. Ils ne disent pas exactement ce qu'ils pensent, ils disent seulement ce qui est valable et ce qui est, disons, valable pour la propagande sioniste. Donc ce n'est pas une position de la France ou bien des États-Unis ou de l'Allemagne, c'est seulement une expression de l'hypocrisie de la domination sioniste mondiale.
Monsieur Bernard Cornu, je vous prie.
Oui, je voudrais rappeler une phrase du président Chirac qui a été très respectée dans le monde arabe parce qu'il a eu des positions courageuses, notamment pour s'opposer à la guerre en Irak, illégale, de la part des États-Unis et de l'Angleterre, et qui s'est aussi beaucoup activé pour promouvoir la paix en Palestine, la création d'un État. Il avait beaucoup de contacts, il était allé très souvent en Palestine, de façon officielle ou de façon même privée. Et je voudrais rappeler donc sa phrase à l'Assemblée française, le 16 janvier 1991, qui empêchera-t-on de penser qu'il y a de par le monde deux poids et deux mesures ? Et cette phrase aussi plus importante, encore plus importante, le règlement de la crise du Golfe, donc c'était en 1991 par une résolution sous chapitre 7 de l'ONU, doit permettre de créer un précédent opposable à toutes les atteintes portées aux libertés des peuples et des hommes, et c'est là la justification essentielle et primordiale de notre intervention concertée, sous-entendu, dans cette région. C'est-à-dire que la guerre du Golfe de 1991, qui a été voulue par les Américains, mais acceptée par les autres pays, y compris l'URSS à l'époque, enfin la Russie à l'époque, a été pour Chirac un précédent. C'est-à-dire qu'il a souligné qu'il fallait utiliser ce processus des résolutions sous chapitre 7, qui sont les seuls processus contraignants de tout le droit international, parce que l'autorité du Conseil de sécurité peut être utilisée pour imposer par la force les mesures décidées, et c'est dans le seul cas, c'est sous chapitre 7. Et donc, pour régler tous les autres problèmes de violation des droits des peuples et des hommes, et c'est-à-dire le conflit, le vieux conflit en Palestine, dans la Palestine historique, entre l'État israélien qui s'est créé tout seul suite à une résolution de l'Assemblée générale en 1947, et l'État palestinien, l'État arabe, qui n'a pas été créé jusqu'à maintenant, et pour lequel la plupart des dirigeants israéliens, y compris Netanyahou récemment, se sont prononcés toujours contre ce principe de création d'un État palestinien, alors que, comme l'a dit le président Macron, c'est bien la seule solution pour assurer à long terme la sécurité d'un État israélien s'il veut se maintenir dans cette région-là, dans la paix et dans la sécurité. C'est vraiment le seul moyen pour lui de résister, d'exister, c'est d'accepter à ses côtés la création d'un État palestinien avec sur le territoire palestinien occupé à partir de 1967, c'est-à-dire la Cisjordanie, Jérusalem-Est et Gaza, et avec, dans le cadre d'une négociation de paix, un échange de territoire pour qu'il y ait une continuité entre Gaza et la ville d'Al-Khalil, Hébron en hébreu, pour assurer la viabilité de cet État palestinien dans une continuité territoriale.
Absolument. Pour terminer, M. Ahmad Rahmi, nous avons parlé bien sûr des crimes d'Israël dans la bande de Gaza, mais revenons, je vous prie, dans le sud du Liban et le Hezbollah, les combattants du Hezbollah qui réagissent en attaquant donc les colonies israéliennes, mais et des cibles uniquement des troupes israéliennes et non pas des civils. Alors qu'on vient d'apprendre que 9 ambulanciers avaient trouvé la mort, et nous avons l'impression qu'Israël fait exprès d'attaquer des civils et non pas des combattants Hezbollah, par exemple.
Il faut savoir la réalité, c'est que Israël occupe toujours des parties du territoire libanais. Et le Hezbollah s'est créé, c'est la réponse à l'occupation du Liban. Quand Israël a occupé le Liban, c'est là où le Hezbollah est apparu comme la seule organisation de la résistance libanaise. C'est-à-dire que le Liban, en fait, ne fait que se défendre, alors que l'entité sioniste ne fait qu'agresser, qu'occuper les autres territoires. Donc, dès le début, Israël ne suit que la loi de la jungle, pas la loi du droit international, parce que même maintenant, par exemple, la Hezbollah n'attaque que les objectifs militaires, alors que l'entité sioniste attaque les ambulances, les civils, disons tout le monde, c'est la loi de la jungle. Et Israël, l'occupation sioniste, ne comprend que la loi de la jungle. Et sa force vient de la faiblesse de ses victimes, de la faiblesse militaire de ces victimes. Et que, par exemple, la République islamique d'Iran ne n'occupe aucun autre territoire, n'occupant qu'un autre pays, n'a pas de plan d'occuper d'autres pays, n'a pas d'armes nucléaires, alors qu'Israël a l'arme nucléaire et personne n'en parle. Hein, alors qu'on en parle seulement des plans de l'Iran, alors qu'Israël a déjà l'arme nucléaire, personne n'en parle. Hein. C'est-à-dire qu'en réalité, l'antitichéisme n'occupe pas seulement les territoires, ils occupent les médias et les autres gouvernements dans le monde entier, et tous les pays sont aujourd'hui sous l'influence de lobby israélien. C'est Israël, en réalité, qui dirige les États-Unis, absolument, qui dirige les organisations internationales. Et donc, c'est la réalité. Hein.
C'est la doctrine Tahiya qui a été mise et explicitée par le général Eisenkot pour l'appliquer dans la banlieue Tahiya de Beyrouth, c'est-à-dire frapper le plus possible de civils de façon non proportionnelle à l'attaque éventuellement qui a été reçue, ce qui contredit d'ailleurs les conventions de Genève, puisque les ripostes doivent être proportionnées. L'idée est de, en frappant les civils, en faisant beaucoup de morts parmi les civils, beaucoup de dommages, les civils s'opposeront aux éléments armés d'une résistance qui vit dans ces quartiers-là. Donc cette doctrine a été explicitée par ce général qui est maintenant un conseiller stratégique de M. Netanyahou, du Premier ministre israélien, et ceci a été dénoncé d'ailleurs comme une contradiction au droit international de la guerre.
Donc c'est une doctrine choisie et poursuivie par la politique israélienne.
Tout à fait, et qui est meurtrière et qui est condamnable, mais qui est appliquée systématiquement en ce moment à Gaza. Massacrer le plus possible de civils, détruire le plus possible de choses pour que les civils se révoltent, s'opposent à la résistance. Alors qu'on voit qu'à Gaza, en fait, l'esprit de la résistance est dans la population elle-même. Alors tous, évidemment, ne souhaitent pas avoir des résistances armées, violentes, mais ils savent que la doctrine du Hamas était que la seule résistance qui peut jouer et resensibiliser le monde contre cette injustice ancienne faite aux Palestiniens est de provoquer des réactions armées, des confrontations armées qui réveillent un peu les opinions publiques et les dirigeants de le monde. C'est regrettable, mais on peut dire que les Palestiniens de Gaza n'ont pas eu d'autre choix.
Bernard Cornu, analyste politique, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et à très bientôt dans l'émission du débat. Un grand merci à Ahmad Rami, directeur de Radio Islam en Suède. Merci d'avoir apporté des précisions à l'émission du débat d'aujourd'hui. Merci à vous. Eh bien, merci pour votre fidélité. Au revoir à tous.
Voyage dans l'univers mystique de Mont Lavu. La guerre contre l'ego. Un soufi disait : j'ai participé à 90 guerres, le corps nu sans protection aucune. J'ai reçu ainsi de multiples blessures, coups de lance ou coups d'épée, espérant goûter la mort des martyrs, mais aucune flèche ne m'a touché à un endroit vital. Ceci n'est qu'une question de chance, et mon effort était vain. N'ayant pas goûté le bonheur du martyr, je me suis retiré dans une cellule. Or, un jour, j'entendis le bruit des tambours, et compris alors que les soldats repartaient en guerre. J'ai senti comme une lamentation de tout mon être qui disait « Voici venu le moment de combattre, lève-toi et réalise tes vœux dans la guerre. » Je lui répondis « Ô maudit inconstant, dis-moi la vérité, que caches-tu derrière cette fourberie? Je sais bien qu'en toi, il n'y a aucun penchant pour le combat. Si tu ne me réponds pas pour de bon, je te ferai subir les affres de l'ascétisme. » Et mon ego de répondre :
en ces lieux, il n'est de jour où tu ne me martyrises. Mon état est pire que celui de tes ennemis, et nul n'en a connaissance. Tu me tues par le manque de repos et de nourriture. Si je meurs au combat, alors au moins le peuple verra qui je suis. Pauvre Ego, lui répondis-je, tu n'es qu'un hypocrite, tu n'es que vanité. Non seulement tu vis dans la calomnie, mais encore tu veux mourir dans la calomnie. Et c'est ainsi que je me suis promis de ne plus jamais quitter cette cellule. Car tout ce que fait l'ego en pareille circonstance ne peut être qu'apparat. Pareil combat est le seul vrai combat. L'autre sorte n'est qu'un petit combat. La partie d'échecs. Le sultan aimait beaucoup jouer aux échecs avec son talhak, le bouffon. Mais chaque fois que ce dernier le mettait mat, il entrait dans une violente colère. « Que tu sois damné !» lui criait-il. Il prenait les pièces sur l'échiquier et les lui lançait à la tête. « Tiens, voici le roi !» disait-il. Talhak, avec beaucoup de patience, espérait le secours de Dieu. Un jour, le sultan lui ordonna de faire une partie et Talhak se mit à trembler comme s'il se trouvait nu sur la glace. De nouveau, le sultan perdit. Quand vint le moment fatal, Talhak se réfugia dans un coin de la pièce et se cacha sous six couches d'édredon afin de se protéger du jet des pièces. « Que fais-tu donc ?» lui demanda le sultan. Dessous les édredons, Talhak lui répondit. « Que tu sois damné deux fois. Quand tu débordes de colère, nul n'ose dire la vérité. C'est toi qui as perdu la partie. Mais en réalité, c'est moi qui suis mis mat par tes coups et me vois contraint de me protéger sous les édredons pour te dire que tu sois damné. » Un jour, quelqu'un demanda au prédicateur « Ô toi, la gloire de la prédiction, réponds à cette question. Si un oiseau se pose sur la tour d'un château fort, est-ce que sa tête sera plus haute que sa queue ?» Le prédicateur répondit « Si l'oiseau est tourné vers la ville, sache que sa tête est plus haute que sa queue. Mais s'il est tourné vers les faubourgs, alors c'est le contraire. Si un faucon chasse des souris, alors il est dépassé par une chauve-souris qui est attirée par le sultan. La taille d'Adam n'est pas plus grande que celle d'un tonneau, et pourtant elle dépasse les cieux. » La perle du sultan. Un jour, le sultan était dans son boudoir entouré de sa cour. Il sortit d'un coffret une perle précieuse et la mit dans la main de son vizir en lui demandant « Quelle est sa valeur ?»« 100 sacs d'or, répondit le vizir. « Écrase-la, ordonna le sultan. « Comment oserais-je ? Dit le vizir. « Cette perle est le fleuron de votre trésor. » « Je suis content de ta réponse, » dit le sultan, et lui fit des cadeaux et lui rendit honneur. Un peu après, alors que d'autres sujets de conversation avaient été épuisés, le sultan donna cette même perle à son chambellan en lui disant « Quelle est sa valeur aux yeux de ceux qu'habite le désir ?»« Cette perle veut la moitié de votre royaume, » dit le chambellan, « que Dieu la protège de tout péril. » « Écrase-la, » ordonna le sultan. « Ô mon sultan, répondit le chambellan, ce serait un grand dommage, voyez cette lumière et cette beauté, l'écraser, ce serait porter atteinte au trésor de mon sultan. » Le sultan fut satisfait de cette réponse et le combla de cadeaux en louant sa sagesse. Puis plusieurs beys ou émirs subirent la même épreuve et par imitation, tous donnèrent la même réponse afin de connaître la faveur du sultan. Finalement, le sultan posa la même question à Ayaz. « Que vaut cette perle ?»« Certainement, elle veut davantage qu'on ne le dit, » répondit Ayaz. « Écrase-la, » ordonna le sultan. Or Ayaz, prévenu en rêve de ceci, avait deux pierres dans sa poche. Il s'en saisit et écrasa la perle sans hésiter. Celui qui met son espoir dans l'union avec le bien-aimé ne craint pas d'être Eleshkun. Quand Ayaz eut écrasé la perle, les courtisans dirent « Celui qui a écrasé une perle si lumineuse ne peut être qu'un blasphémateur. »« Quel est le plus précieux ?» demanda Ayaz. « L'ordre du sultan ou la perle ?»« Vous, vous êtes intéressé par la perle et non par le sultan. »« Moi, je ne suis pas attiré par les pierres. » Comme le sont les infidèles. Seul le sultan me préoccupe. L'âme qui est prisonnière d'une pierre colorée ignore l'ordre du sultan. » À ces mots, les beys, les émirs, le chambellan et le vizir inclinèrent la tête en se lamentant. Le sultan fit signe au bourreau. « Venge-moi de ces misérables, dit-il, car ils ont préféré une pierre à mes ordres. » Au sultan, tu es celui auprès de qui les généreux trouvent la source de leur générosité. Les plus généreux ont honte devant la munificence de tes faveurs. L'insolence et l'ignorance des blasphémateurs proviennent de l'abondance inépuisable de ta clémence. Au moment du pillage, le peuple veille pour protéger ses biens, puisque la crainte de perdre ses biens l'empêche de dormir. Comment pourrait-il dormir sans crainte de perdre la vie? L'oubli naît de l'inadvertance et du ramollissement. Laisse-leur la vie, car ils ont vu ton visage et ne supporteront pas d'en être séparés. Même si la mort est amère, elle ne peut l'être autant que la séparation. Il est agréable de mourir avec l'espoir de te rejoindre, mais il est amer de vivre dans les tourments de la séparation. En enfer, les infidèles se disent « Nous ne serions pas aussi tristes s'ils nous avaient honorés d'un seul regard. Afin que ceux qui sont avilis par l'insolence puissent être lavés par le frat de ta miséricorde, laisse s'écouler le flot de ton pardon. »
Thank you. Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.